Bonjour David Rigolet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. L'OTAN fête aujourd'hui ses 75 ans d'existence et plus que jamais préoccupée par l'Ukraine en difficulté sur le champ de bataille, faute de munitions et d'armement pour contrer la pression grandissante des forces russes. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique de cette alliance transatlantique? On voit quand même que les États-Unis se désengagent quelque peu de l'OTAN. Comment cette alliance a-t-elle évolué depuis sa création?
Alors, concernant les États-Unis, on ne peut pas dire qu'ils se désengagent. C'est parce qu'il y a un débat, notamment dans le cadre de la perspective de la présidentielle, avec des hypothèses formulées par Donald Trump. Non, on n'en est pas là, hein, loin de là. Alors, pour ce qui est de la fondation, l'OTAN atteint un âge respectable, effectivement, hein, fondée en 1949. À l'origine, il y a une douzaine de membres. C'est une alliance transatlantique, en fait, qui est destinée à protéger l'Europe occidentale contre, on va dire, la pression du bloc soviétique. On est en pleine guerre froide, et donc effectivement, depuis lors, il y a un nombre conséquent de pays qui ont rejoint l'alliance. Notamment, en fait, les 25 ans de l'intégration de la Pologne, qui est un pays important de l'alliance, et puis les 20 ans d'intégration des pays baltes, Slovaquie, Roumanie, Slovénie, Bulgarie. Donc l'OTAN s'est élargie à l'est, et c'est un paramètre évidemment à prendre en compte par rapport à la situation en Ukraine, parce que c'est un des griefs que les Russes ont formulé à l'endroit de l'alliance, justement en disant qu'il y avait effectivement une poussée vers l'est à partir de son centre de gravité initial qui était plus occidental et on va dire atlantico-centré. Et donc aujourd'hui, l'OTAN est confrontée effectivement à des défis majeurs que représente notamment en Europe la guerre en Ukraine, qui ça fait 2 ans de guerre, et on sait que l'OTAN s'est engagée à assurer un soutien pérenne pour permettre à l'Ukraine de se défendre contre l'agression russe. Et effectivement, l'OTAN est un outil, même si l'OTAN n'est pas partie prenante, n'est pas, on va dire, engagée militairement. Mais l'OTAN est là notamment pour garantir les frontières exposées de ses membres les plus proches de la Russie. On pense aux pays baltes notamment. Et la force de l'OTAN depuis le début, la force de l'OTAN, c'est son article 5, ce qu'on appelle la clause mousquetaire, c'est-à-dire que si un des membres se voit agressé, l'ensemble des 32, enfin aujourd'hui 32 pays, réagissent collectivement pour le soutenir. Donc c'est une assurance effectivement qui explique l'attraction de l'OTAN et notamment l'attraction récente de deux pays qui ont été neutres pendant plus d'un demi-siècle, en l'occurrence la Finlande et la Suède, qui ont rejoint l'OTAN récemment, justement par crainte de ce qui est perçu aujourd'hui comme la menace russe. Et ces deux pays ont intégré la Finlande d'abord en avril de 2023 et puis la Suède qui vient d'intégrer en mars 2024.
Alors, Anthony Blinken était à Bruxelles aujourd'hui justement afin de participer à un sommet de l'OTAN et il a déclaré que c'était qu'une question de temps avant que l'Ukraine ne fasse partie de l'Alliance. À votre avis, c'est une sorte de provocation?
Oui, alors on n'en est pas là, hein. C'est évidemment, on va dire, il y a des éléments de langage, une logique d'affichage. C'est une manière de montrer à l'Ukraine que l'horizon d'une intégration est possible, mais on sait très bien que ça va être très très compliqué. De toute façon, c'est pas possible en l'état aujourd'hui, puisque selon l'article 10, l'OTAN ne peut pas intégrer des pays qui sont déjà en situation de belligérance, justement pour éviter des télescopages et un engagement inconsidéré de l'alliance en cours de route, si j'ose dire. Donc l'article 10, justement, prévoit que l'intégration d'un membre qui se fait à l'unanimité, d'ailleurs, on l'a vu avec l'obstruction qui avait été instrumentalisée par le président Erdogan vis-à-vis à la fois de la Suède, de la Finlande et de la Suède, pour des raisons qui lui étaient propres de politique intérieure. Donc cet article 10 implique que le pays candidat s'engage à contribuer à la sécurité de la zone euro-atlantique. Et on voit bien qu'un pays déjà en guerre ne peut pas donner ce type d'assurance, même si effectivement on ne peut pas fermer la porte à long terme, mais à encore plus long terme manifestement que l'intégration putative à l'Union européenne, ce qui est deux choses différentes, puisque l'Union européenne n'est pas une alliance militaire. Donc il y a des horizons qui sont dessinés, mais évidemment, concrètement, pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité.
Et justement, sur ce dossier de l'invasion russe en Ukraine, est-ce que les nouveaux membres, la Finlande et la Suède, vont avoir un impact dans la direction, que prend l'OTAN?
Je disais que le centre de gravité s'était déplacé à l'est, au nord-est d'ailleurs, pas seulement à l'est, puisqu'aujourd'hui la mer Baltique est, on dit, otanisée, puisque les pays de son pourtour viennent d'intégrer l'OTAN, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. D'une certaine manière, c'est un échec de Vladimir Poutine, qui était censé vouloir justement affaiblir l'OTAN et qui, dans une prophétie autoréalisatrice, d'une certaine manière, a réussi à renforcer l'OTAN. Alors même que le président français avait évoqué dans une formule célèbre, accordée, enfin dans le cadre d'un article accordé le 7 novembre 2019 à The Economist, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Alors c'était le contexte de 2019. Aujourd'hui, évidemment, l'OTAN n'est pas du tout en état de mort cérébrale, mais l'OTAN est confrontée à des défis majeurs, renouvelés, les plus importants probablement depuis la fin de la guerre froide.
Et on voit si dans quelle mesure l'OTAN pourrait-il prendre une place pour soutenir l'Ukraine dans cette guerre? Enfin, est-ce qu'on parle d'appui militaire, d'envoi d'armement, de munitions?
Ah non, il n'est pas question qu'il y ait des soldats de l'OTAN. L'OTAN ne peut pas être co-belligérant, parce que là, ça validerait d'ailleurs le narratif russe qui accuse l'OTAN finalement d'être co-belligérant de manière plus ou moins implicite. Non, non, l'OTAN n'a pas du tout l'intention d'être co-belligérant. D'ailleurs, l'OTAN à la base est une alliance défensive, absolument pas offensive, hein, faut le rappeler. Elle est là pour garantir la sécurité de ses États membres. Ce qu'elle fait et ce qu'elle a réussi à faire d'ailleurs depuis 75 ans. Ce qui n'empêche pas, par ailleurs, en termes de crédibilité, l'OTAN de montrer ses muscles. C'est le cas depuis janvier. Il y a des grandes manœuvres qui s'appellent Steadfast Defender, c'est-à-dire défense inébranlable, qui se déroule entre janvier et mai, avec en plusieurs volets d'ailleurs. Hein. Il y a le volet nordique, le volet oriental, mais dans tous les cas, c'est un vaste ensemble de manœuvres de près de 90 000 hommes. C'est une démonstration de force, 1 100 blindés, 80 avions. C'est pour montrer effectivement que l'OTAN est une alliance solide, bien organisée entre ses membres. Il y a effectivement ce qu'on appelle une interopérabilité des États membres de l'OTAN, ce qui fait son efficacité sous la supervision évidemment américaine.
Donc maintenant, ma dernière question, on voit que l'attention de l'OTAN est rivée pour le moment sur la guerre en Ukraine, mais que les États membres restent relativement silencieux sur l'autre conflit, le conflit entre Israël et le Hamas. Et c'est pas le cas des États membres de l'Union européenne, par exemple. Comment le comprendre?
Oui, mais là, l'OTAN, sa vocation, c'est la défense euro-atlantique. Donc, elle n'a pas vocation, je veux dire, à intervenir, ni même à commenter, a priori, ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, même si, évidemment, des membres importants de l'OTAN sont concernés par la situation, évidemment, au premier rang desquels les États-Unis et d'autres. Donc, et puis surtout, et ça, alors, pour le coup, c'est ce qui inquiète d'ailleurs aussi l'OTAN, c'est qu'il y a une interconnexion du théâtre ukrainien avec le théâtre proche et moyen-oriental, notamment avec le rapprochement de plus en plus marqué, un axe Moscou-Téhéran notamment, avec des transferts d'armement, des transferts de missiles, notamment iraniens, à destination du théâtre ukrainien. Et donc là, évidemment, ça suscite évidemment beaucoup de critiques et de questionnement qui oblige d'ailleurs l'OTAN à montrer justement sa force pour montrer sa crédibilité en tout état de cause sur le théâtre européen. Donc la situation est complexe, même si pour l'instant, effectivement, il s'agit surtout de montrer à la fois la pérennité du soutien occidental à l'Ukraine et la solidité de l'Alliance.
Eh bien, David Rigoulet-Rose, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio
Merci.
Judaïka.